Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout premier épisode. Je suis Lucie Hazelgrove-Planel, anthropologue et scientiste de l'impact social. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai le plaisir d'être avec David Stern, directeur d'IDEMS. David, ravi de lancer ce projet avec toi, un podcast sur et par IDEMS.
Merci, ça fait un plaisir. Bien sûr, nous avons le podcast en anglais, mais c'est notre premier épisode en français et ça fait plaisir.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait un podcast en français? Alors, pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire une série d'épisodes en français?
Je dois m'excuser pour mon accent. Je suis anglais, mais j'ai fait mon enfance au Niger. Vraiment, mon cœur reste dans l'Afrique de l'Ouest. J'adore travailler dans l'Afrique de l'Ouest et nous avons la chance de faire partie de communautés de pratique pour l'Afrique de l'Ouest, pour un programme de recherche de la Fondation McKnight.
Le programme s'appelle la collaboration pour les systèmes alimentaires résilients. On a plus l'habitude de le dire en anglais, ce qui est le Global Collaboration for Resilient Food Systems, où on va peut-être utiliser l'acronyme le CRFS.
Et cette communauté de pratique, elle fête sa 20e anniversaire cette année. Ça fait... C'est vraiment quelque chose qui est... J'en fais partie depuis plus d'une dizaine d'années, plus long que IDEMS a existé. J'ai commencé à travailler dans ce rôle avant même qu'on a créé IDEMS. Et même l'inspiration d'IDEMS, ça ressort un peu de ce travail, de vraiment comprendre que ce rôle est plus que simplement le travail d'un académique.
Alors, quel est ton rôle ou quel est notre rôle? Car moi aussi, je travaille dans cette communauté. Donc, est-ce que tu pourrais décrire notre rôle? On a des rôles différents un peu aussi.
Oui, nous avons un financement pour supporter les méthodes de recherche des partenaires dans la communauté de pratique. Et c'est un rôle que j'adore. Notre rôle, c'est d'être là pour supporter nos partenaires à faire la recherche qui est plus participative, qui est vraiment nouveau, qui est différent.
Très différents même, oui. Comme vous allez entendre certainement dans les épisodes qui viennent, donc certains seront avec les chercheurs du CRFS et dans des méthodes de recherche qui sont vraiment bien à l'avant des techniques de recherche actuelles par beaucoup d'académiques dans le monde. Et ils travaillent non seulement sur des questions qui sont réelles, qui vont avoir un vrai impact sur le terrain et pour les producteurs ou pour les transformatrices avec qui ils travaillent. Mais comme tu as dit, beaucoup de chercheurs disent recherche participative et c'est juste de donner une caméra ou quelque chose à l'enquêter ou quelque chose. Mais tandis qu'ici, c'est les personnes impliquées dans les recherches qui co-créent la recherche même.
Et ça ne veut pas dire que toute la recherche au sein de la communauté est totalement différente. Mais il y a des composants qui sont différents. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est notre rôle, c'est de supporter cette innovation. Moi, l'aspect et une histoire que vous allez entendre, je suis sûr, c'est l'histoire de Fumagasse. C'est une fédération de maradis au Niger. Ils ont été le premier paysan qui a reçu un financement de recherche par la Fondation. Ce n'est pas qu'ils ont reçu le financement pour faire le développement, non. Ils ont reçu le financement pour faire la recherche. Ils l'ont reçu il y a plus de presque 15 ans maintenant, c'était 2012, je pense. J'ai eu la chance de commencer à travailler avec eux, c'était à peu près 2014. Ils avaient déjà fait la première année de leur étude. Et c'est vrai que les données qu'ils avaient montraient qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience à faire la recherche, parce que ce n'étaient pas des chercheurs. Et même, je peux dire que le partenaire de recherche, il a refusé de faire partie du projet parce qu'ils ont dit, comment vous pouvez donner un financement de recherche à une organisation paysanne et pas à nous, l'organisation de la recherche? Et donc, ils ont dit, si vous le donnez, nous ne faisons pas partie. Et donc, ils n'ont pas fait partie au début. Et donc la première année, c'est vrai, l'essai qu'ils avaient fait avec leur producteur, la valeur scientifique n'était pas très bonne. On a discuté là-dessus, on a discuté de pourquoi, on a discuté pourquoi les traitements qu'ils ont regardés n'étaient pas conçus d'une manière scientifique. Ils ont refait la prochaine année avec des meilleurs traitements, mais les résultats n'étaient toujours pas très bons. On a discuté pourquoi, on a dit peut-être que c'est la taille de vos parcelles. Et l'année suivante, ils ont fait avec la taille du parcelle qui était plus grande. Et les résultats étaient parfaits. C'était vraiment impressionnant. Et ça, c'était sur les résultats qu'ils avaient là, montrer l'impact d'utiliser l'urine humaine comme fertilisant.
Vous allez certainement entendre beaucoup d'histoires
Ah
comme
oui.
ça, où ben, c'est nous qui sommes très enthousiastes par rapport à ces projets de recherche, mais aussi par rapport à la fondation même qui a osé donner des subventions à des partenaires qui sont, qui n'ont pas l'habitude d'être des partenaires de recherche ou des leaders dans la recherche parce que ils voient que ça peut arriver à quelque chose.
Mais ce qui m'a étonné dans cet exemple, c'était que c'était en à peu près 2017 qu'ils ont employé un informaticien. Ils ont commencé à dire que non, nous voulons que les données soient nos données. Ils étaient vraiment avant sur l'appartenance des données devrait être avec les producteurs même et non avec les chercheurs ou ceux qui sont à l'extérieur. Et j'étais dans la salle où il y avait les chercheurs. Il y avait l'organisation des producteurs et ils étaient en train de discuter de la typologie des producteurs. Il y avait un moment où les chercheurs ont commencé à discuter entre eux et j'étais là et ils étaient en train de discuter sur l'échantillonnage. Étant dans la salle, j'ai pu observer cela, demander à haute voix pour que tout le monde puisse entendre au directeur de l'organisation des producteurs, mais vous voulez faire une partie de vos producteurs ou tous vos producteurs? Et il a dit, tous nos producteurs. Et les chercheurs nous ont regardés. Ah, mais non, 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 nous devons prendre l'échantillon. Et je dis, non, 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 c'est bon, il y a des méthodes statistiques pour ça. Et donc, j'ai pu être là pour essayer de voir comment ça a pu changer les pouvoirs de décision sur comment la recherche. Et tout a changé à ce point-là. Parce que du moment où ils ont changé, ils ont dit que non, ce n'est pas un échantillon que nous voulons. Nous voulons faire sur tous nos producteurs. Ça a changé le type de l'enquête, ça a changé le nombre de questions, la taille de l'enquête, ça a changé. Tout aspect a changé. Parce que c'est eux qui avaient les financements. Les chercheurs ont dû leur accompagner dans ce que eux, ils ont voulu faire. Et c'était ça qui était vraiment incroyable pour moi d'observer comment le pouvoir a changé. Avec cette confiance de pouvoir dire aux chercheurs, non, voilà ce que nous voulons faire. Et vous devez nous aider à faire la recherche sur ce qui nous est important. Je ne dis pas que tout aspect, toute décision de recherche qui sont prises sont les meilleures, mais elles sont intéressantes et elles sont différentes. Et ce qui fait que maintenant, les discussions avec les chercheurs sont vraiment différentes parce qu'eux, ils ont les données de base. Ils ont l'information sur tous leurs producteurs qui peuvent aider dans l'échantillon. Pour tout autre essai, ça change totalement la manière de penser à faire la recherche avec eux. Comme partenaires de recherche, ils sont totalement différents. Et lorsque tu as dit qu'ils font la recherche différemment, ça pour moi, c'est toujours le plus grand exemple. C'est vraiment là où le pouvoir a bougé entre les organisations des producteurs et les chercheurs. Et maintenant, la collaboration est très différente. Et ce n'est pas tous les chercheurs qui aiment ça. Mais ceux qui l'aiment, ils bénéficient beaucoup. Il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup d'interactions intéressantes qui ressortent de cette approche. Je suis tellement fier de simplement faire partie, d'être dans la salle dans certains de ces moments. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup. Ce n'est pas une région qui est facile à travailler. Les trois pays, c'est le Niger, le Burkina, le Mali.
Oui.
Et pour ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est une région qui est un peu délicate, un peu difficile, surtout en ce moment. Mais j'ai eu la chance de faire mon enfance au Niger. Et donc, je suis tellement fier et confortable de travailler dans cette région. Mais je suis vraiment fier de la population et son indépendance par rapport à toutes sortes de choses. Lorsque j'étais là dans les années 90, dans mon enfance, il y avait une seule université. Maintenant, chaque région a son université au Niger. Et ils ont réussi à ramener beaucoup de monde qui était à l'extérieur pour revenir créer ces nouvelles universités. Et
L'extérieur, tu veux dire dans d'autres pays.
oui, il y avait beaucoup de Nigériens qui étaient sortis faire leurs études et restés dehors. Mais ils ont réussi à amener beaucoup à revenir. Et maintenant, l'université de Tilbury. Qui aurait pensé à l'époque que Tilbury aurait sa propre université? Mais elle est fantastique. Il y a des collaborateurs qu'on a là-bas qui font du travail qui est incroyable. Nous avons des collègues à l'université de Maradi qui aussi sont en train de vraiment créer cette relation avec cette organisation des producteurs, cette fédération. La recherche qu'ils sont en train de faire est incroyable, vraiment intéressant. Et le nombre d'étudiants qu'ils sont en train d'entraîner, ah, c'est merveilleux, c'est vraiment impressionnant.
Et donc le but vraiment de ce podcast, c'est à la fois de faire ressortir ces histoires qui souvent, depuis cette région, les chercheurs, que ce soit des producteurs qui sont chercheurs ou des chercheurs universitaires, ils n'ont peut-être pas les réseaux pour faire sortir ces histoires, mais aussi donc de parler de notre travail. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, notre travail, c'est vraiment un support aux méthodes de recherche, que ce soit dans le sens pratique de comment bien élaborer un plan de recherche ou comment analyser des recherches, ou ben, je sais qu'une de tes préférences, c'est aussi de penser vraiment au long terme ou au grand impact de comment créer des grands changements. Donc tout ça va ressortir dans ces épisodes. Donc on a nommé la communauté de pratique de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas dit que c'est par exemple surtout sur la recherche agroécologique. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il
C'est
faudrait...
peut-être important de dire que c'est une de trois régions. Donc, nous allons mettre le focus sur la région de l'Afrique de l'Ouest, qui est centrée sur Niger, Burkina Faso et Mali. Mais il y a deux autres régions. Un en l'Afrique de l'Est et du Sud, c'est le Kenya, l'Ouganda, le Tanzanie et le Malawi. Il y a aussi un qui est aux Andes, en Amérique latine, c'est le Bolivie, l'Équateur et le Pérou. Et ces trois régions font partie du même programme de recherche qui ressort de la Fondation McKnight. En fait, le programme de recherche, il a maintenant presque 40 ans. C'est peut-être même plus de 40 ans. Mais la structure qui existe maintenant avec ces trois régions, ça a une vingtaine d'années. Comme nous dites, cette année, l'Afrique de l'Ouest est en train de fêter sa 20e anniversaire. Moi, j'ai la chance depuis 2014, j'en fais partie donc plus d'une dizaine d'années. Et c'est une expérience qui m'a ouvert les yeux. Je suis rentré dans la communauté comme mathématicien, éducateur de statistiques, mais vraiment, ça m'a poussé à voir les partenaires qui faisaient la recherche, comme j'ai décrit, participative de cette manière. J'ai aucun entraînement, pouvait me préparer pour ce rôle que je joue. Je trouve ça un grand privilège de pouvoir travailler avec des innovateurs et d'essayer d'être là pour innover avec eux et supporter leur innovation dans le but d'un développement agroécologique qui va vraiment améliorer la vie des petits producteurs. Le programme est centré sur les petits producteurs. Et ça, c'est vraiment un plaisir de faire partie et ça m'a ouvert les yeux. Je peux dire que IDEMS elle-même, elle a pris beaucoup de nos structures, même en tant qu'organisation, nous avons des principes. Mais c'est grâce à ce travail avec la Fondation que nous avons appris la valeur des principes. Parce que le programme elle-même, elle avait des principes. On a fait un processus pour créer les principes du programme. Et j'ai vu la valeur que ça a donnée à la communauté. Et j'ai dit que voilà, ça c'est une approche qui est nécessaire si je veux créer une organisation qui va pouvoir avoir un impact sur le monde, mais malgré le fait que l'impact elle-même n'est pas bien défini. On doit la guider. Et les principes nous servent d'un guide. Et ça, c'est une seule, mais il y a beaucoup de choses que nous avons prises de cette communauté pour nous-mêmes, IDEMS, et essayer de créer l'organisation comme elle est maintenant.
Et on va certainement en discuter dans d'autres épisodes.
Absolument, absolument. C'est une première épisode, on pourra parler pendant des heures, mais on devrait la garder assez courte pour que les gens l'entendent, je pense. J'espère
Alors,
que cet épisode va commencer ce nouveau podcast.
bienvenue à tout le monde, et à bientôt.
À bientôt. Merci.